voilà, comme prévu, je vous l'avais dit, vous débarquez dans ce café Grégo, dans cette matinale. On vous a dit on allait avoir une interview aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Klaske Dijkema, qui est doctorante en géographie au laboratoire PACT. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une thèse qui est quand même très importante pour toi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Klaske Dijkema, donc je disais doctorante en géographie, tu viens nous parler d'une thèse qui s'intitule, je peux donner le titre ?
Ouais. Oui.
Allez, Subalterne en France, une exploration décoloniale de voies, violence et racisme dans les quartiers d'habitat social marginalisés à Grenoble. C'est bien ça ?
C'est juste.
Je ne me suis pas trompé. Alors, Klaske, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu, nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours pour arriver jusqu'à ce jour J ?
Oui, bien sûr. Ben, je viens d'une association Modus Operandi que j'ai fondée avec des collègues en 2006. Et on a beaucoup travaillé sur les questions de transformation de conflits, de violence, mais plutôt dans les pays du Sud. Et de plus en plus, on s'est réalisé qu'en fait, les outils avec lesquels on essaye de comprendre les conflits, que ce serait aussi en fait, pertinent de ne pas uniquement penser les conflits ailleurs, dans les pays du Sud, dans les pays des guerres, mais en fait que le conflit, on en a aussi plus proche de chez nous, de la violence, et est-ce qu'on peut, avec les mêmes outils, est-ce qu'on peut comprendre donc de la violence ici ? Et donc, je suis plutôt partie de l'idée pour comprendre les violences urbaines en France, et j'ai essayé de chercher un financement, en fait, donc pour faire de la recherche et appliquer ces outils ici en France.
D'accord. Donc, pour observer qu'il y avait justement des conflits ici, mais qui n'étaient pas forcément traités de la même manière que... à chaque fois, on voit le point de vue étranger, c'est bien ça ? Tu m'arrêtes hein, si je me trompe ?
Oui, en fait, de dire, ici, on a violence, mais on n'a pas de conflit. Les violences urbaines, il n'y a pas de conflit. Ouais. En fait, c'est des violences. Et c'est une façon, en fait, de ne pas voir que derrière ces violences, il y a des revendications. Et il y a un problème. Et qu'il faut comprendre ça dans une perspective plus large, qui n'est pas un problème uniquement des quartiers. Mais c'est justement une question... d'une relation entre les quartiers, des personnes qui habitent dans les quartiers. Bon, je dis quartier ici parce que c'est ce qu'on dit généralement.
Ouais.
Dans la thèse, j'ai voulu le problématiser un peu plus. Et donc, j'ai dit quartier d'habitat social marginalisé. Mais disons aujourd'hui quartier populaire pour le rendre un peu simple.
Pour le vulgariser un peu, comme on dit.
Ouais, ou en tout cas, que je ne me trompe pas chaque fois que je vais dire le mot.
Alors, on est en plein dans le mois décolonial à Grenoble, là. Bon, alors, il y a eu la petite polémique, tout ça et tout. Donc, c'était important pour nous aussi de t'inviter pour ça, Klaske, parce que c'est des sujets qui sont très importants et qu'il ne faut pas passer sous la table. Comment s'est passé, quand a été le point de départ de ta thèse à toi ? C'est à partir de quel moment où tu t'es dit...
Oui, parce que finalement, le cœur de mon travail de thèse... ne portait pas sur la violence urbaine parce que la semaine que je commence la thèse, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Et donc, tout le débat que je voulais mener avec des habitants dans les quartiers, d'avoir leur point de vue sur les violences urbaines, en fait, c'était plus du tout pertinente parce que là, on parlait du terrorisme, ce qui est complètement une autre forme de violence. Et ce que j'ai surtout pu observer... c'est en fait les conséquences que les attentats ont eues sur les personnes habitant à Villeneuve. Parce que c'est là que j'ai fait ma recherche. Donc Villeneuve, et j'inclus dans Villeneuve donc à la fois la partie à Échirolles et à Grenoble, parce qu'il y a eu les émeutes à Villeneuve de Grenoble en 2010 et la mort de Kevin et Sofiane en 2012, qui étaient un peu des points de départ initiales, mais s'y rajoute alors une troisième violence qui est celui du terrorisme. Et donc, la question, comment, en fait, à partir du terrorisme, je suis arrivée aux études post- et décoloniales et d'employer ce mot et de le comprendre dans ce contexte-là, c'était en fait un long cheminement. Et donc, je propose d'expliquer un peu ce cheminement aujourd'hui. Et ça commençait vraiment dans la période juste après Charlie, où j'entendais beaucoup dans le quartier, mais on ne peut pas parler, on n'est pas entendu. Et donc, typiquement, je voulais vous lire deux citations qui m'ont vraiment marquée. C'est une première personne a dit « On ne pouvait pas donner son opinion. On ne nous entendait pas. On ne nous comprenait pas. Donc, il valait mieux raser les murs et faire le plus discret que possible. Et ce terme, raser les murs, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, c'est un terme qu'ont beaucoup utilisé la première génération des migrants, des immigrés de Nord-Afrique, d'Algérie, qu'en fait, il fallait surtout se rendre aussi invisible que possible, assimiler, on s'adapte, on fait rien, qu'on ne nous remarque pas, qu'on dérange pas. C'était ça ce qu'ont vécu, en fait, beaucoup d'enfants qui ont grandi ici. Et donc, ce terme « raser les murs », ça revient en 2015, c'était pour moi très significatif. Et donc, un deuxième participant, donc, au débat qu'on a organisé, j'y reviens après, c'est qui disait, un an après, « Je ne suis toujours pas Charlie ». Charlie se permet de dire ce qu'il veut, car il est dans une position dominante. Nous ne sommes pas égaux face à ça. On entend toujours les mêmes, et il y en a qu'on n'entendra jamais, alors qu'ils ont des choses importantes à dire. Et donc, c'est cette question, en fait, de ne pas pouvoir parler, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, je suis un peu allée creuser ça, parce que ça faisait écho avec des travaux d'une personne qui s'appelle Spivak, qui a beaucoup travaillé sur l'Inde coloniale et comment en fait les résistances et les voix des personnes qui résistaient au pouvoir colonial étaient complètement invisibilisées, ne pas entendues. Et donc c'est pour ça qu'elle dit « les subalternes ne peuvent pas parler ». Et donc ça fait écho avec moi, je me dis « mais en fait, est-ce que donc on peut dire qu'en France, on a aussi des subalternes qu'on n'entend pas ?» Et donc, j'ai aussi un peu creusé cette histoire de Charlie, parce qu'il y a eu des résistances politiques, il y a eu une association musulmane qui a essayé de défier Charlie devant le tribunal, qui l'a fait en plus, et qu'à ce moment-là, c'est en 2007, Charlie Hebdo est défendu par Hollande, Sarkozy, Bayrou, Elisabeth Badinter, pour défendre, en fait, Charlie Hebdo, que ça parlait de la liberté d'expression. Et ça montre, en fait, l'asymétrie dans les rapports de pouvoir, qui peut parler et qui ne peut pas parler. Et donc, c'est une forme de domination qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc, ça, c'était vraiment un peu un point de départ, de dire, OK, si, parce que ce n'est pas uniquement qu'elle ne pouvait pas parler et qu'elle ne s'était pas entendue, les personnes avec qui j'étais, mais aussi qu'en fait, cette parole était criminalisée. Parce que dire à ce moment que tu n'es pas Charlie, c'est en fait être pour la violence.
C'était très mal vu.
Et même plus que ça, c'était criminalisé. Il y a eu des cas, des enfants qui sont amenés en garde à vue, des enfants qui ont été dénoncés par l'école vis-à-vis de la police, des parents qui ont été convoqués. Donc, on va plus loin dans « on ne peut pas le dire ». Il y a aussi des conséquences graves. Ça, en fait, parler devient dangereux.
Il y a eu des sanctions, en fait.
Il y a eu des sanctions, effectivement. Et c'est là aussi qu'on arrive à une définition d'être français, c'est être Charlie. Et donc, si on n'est pas Charlie, qui était quand même le cas de la plupart des musulmans, si on n'est pas Charlie, bah, en fait, on n'est pas français. Et donc, qu'est-ce qu'est notre place en France? Et ce sentiment-là est en écho avec un sentiment très longtemps qu'ont des personnes racisées. Donc, c'est le terme que j'emploie pour des personnes qui vivent le racisme et des discriminations, qui donc, n'est pas forcément lié à une couleur de peau, mais peut être aussi lié à une religion. Qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait une place en France comme les autres.
Ça, c'est un constat que tu as pu faire au fil de toutes tes études. Comment tu t'y es pris pour faire cette thèse? Tu as eu des partenariats, forcément, tu n'as pas travaillé toute seule. Est-ce que tu peux nous parler de ben voilà, avec qui tu as travaillé, comment ça s'est construit?
Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est problématique pour un chercheur ou une chercheure, dans mon cas, d'aller en fait dans un quartier populaire. J'ai vite compris que dans le passé, il y a eu des... parce que là aussi, il y a des rapports de pouvoir qui jouent. Là, il y a l'université, et il y a une grande grille devant. On ne peut pas simplement y entrer. Et qu'est-ce qui me permet, en fait, et me rend légitime de, hop, aller dans le quartier, elle est ouverte, et maintenant, je vais vous étudier. C'est problématique.
Ouais.
Et spécifiquement dans un contexte où la parole, comme je disais, est dangereuse. Tandis que la chercheure en sciences sociales s'appuie beaucoup sur la parole pour avoir accès à l'information. Donc j'étais un peu avec ce dilemme. En fait, pourquoi moi je serais légitime d'aller dans ce quartier, de produire mon savoir sur le quartier et d'aller le raconter ailleurs. Ouais. Et donc assez vite, j'ai compris que peut-être le quartier, j'allais pas produire du savoir sur un quartier, mais que Villeneuve, en tout cas, c'est aussi un lieu d'où on parle. Et j'ai compris que si j'y suis à l'écoute, je pourrais trouver des clés de comprendre les tensions actuelles en France. Et donc, c'est de se dire, OK, je vais regarder qui a aussi envie d'apprendre avec moi. Donc, le principe, c'était de ne pas apprendre individuellement, mais d'apprendre ensemble. Et ça tombe bien, parce qu'à Villeneuve, au contraire des idées des déserts politiques qu'on a habituellement des quartiers populaires, c'est pas du tout le cas de la Villeneuve. Il y a beaucoup de personnes et des formes d'engagement et en particulier dans des moments de crise où des réseaux qui existent déjà se réorganisent et en fait viennent ensemble. Et donc je pouvais en profiter d'être là et d'être j'étais accueillie dans ces groupes qui se formaient pour faire quelque chose. Et donc, ensemble, on a inventé des nouvelles choses à faire. Et donc, un des projets qui était très important dans ma thèse, c'est qu'on a créé ensemble, avec des acteurs qui venaient de différentes associations, ce qu'ils appellent l'Université populaire de la Villeneuve.
Beaucoup de travail donc avec ces associations de la Villeneuve, donc des partenariats. Oui. Pourquoi cette question décoloniale, elle fait grincer, elle rend sensible les gens?
Oui, c'est une bonne question, parce que moi je suis pas toujours sûre de complètement comprendre. Ouais. Et c'est une question qu'on a beaucoup creusée ensemble. Parce que au début, la première année, vraiment l'importance, c'était d'ouvrir des espaces de parole dans la phase post-Charlie. Donc la première était sur, parler du racisme et d'islamophobie que les gens rencontraient. Mais c'était vraiment sur le concret. En fait, qu'est-ce qui m'arrive dans la rue de pouvoir partager ça, de pouvoir dire en fait qu'on n'était pas à Charlie. Et on a aussi beaucoup parlé de la stigmatisation des quartiers, qui était intimement liée en fait avec toute l'histoire de Charlie, parce qu'en fait la première chose qu'on va voir, c'est regarder les quartiers, comme si le problème et la menace venaient de là-bas. Ouais, ouais. Donc c'est lié à l'islamophobie et la stigmatisation des quartiers. Donc je viens à mon point, donc comment j'arrive à la question coloniale et pourquoi elle est importante. Donc pendant ces débats, il y a eu beaucoup de références en fait au passé colonial. Et donc on a décidé ensemble de faire en 2017 et 2018 10 débats publics où on s'est posé la question collectivement dans le quartier, qu'est-ce qui reste du passé colonial. Et donc suite à cette expérience-là, moi, je comprends non plus pourquoi, en fait, c'est aussi sensible, ou je le comprends, mais je trouve que c'est injustifié, parce qu'on a vu pendant ces débats qui ont aussi rencontré énormément de résistances localement, mais aussi parmi des personnes, des anciens immigrés algériens avec qui on a essayé d'avoir des débats sur la rue. Ils disaient, vous parlez de la guerre d'Algérie, vous voulez faire la guerre? Comme si, en fait, parler de cette période est faire de la guerre ou diviser une population. Tandis que ces divisions, en fait, ils sont là. Et le trauma de la guerre d'Algérie concerne encore tellement de personnes, et pas uniquement dans les quartiers. Parce que j'ai présenté mon travail dans mon village où j'habite, donc à Saint-Hilaire-du-Touvet, avec des personnes de l'Université populaire, et on a présenté en fait aussi pour faire voyager ces points de vue, et c'est là, c'était incroyable combien de ça faisait écho avec des personnes dont qui tu penserais qu'ils auraient aucun lien avec le passé colonial, mais le nombre de pieds noirs, des parents ou grands-parents qui ont travaillé dans les colonies, en fait cette histoire elle est partout, et donc j'ai appris que la période coloniale n'est pas uniquement facteur de division, mais c'est facteur de liaison aussi.
À partir du moment où justement on se permet d'en parler ou qu'on en parle régulièrement. Parce que c'est intéressant ce que tu dis sur la réaction des gens. Pourquoi tu parles de la guerre d'Algérie? Tu veux refaire un conflit ou recréer une tension? Alors que pas du tout, en fait. Il faut désamorcer, il faut dénouer, il faut en parler. Et ça, c'est une question qui est au cœur quand même de ta thèse. Tu es allé en profondeur sur ce côté ancienne colonie.
Oui.
Et spécialement en Algérie ou...
Bah, il y a une grande population d'origine algérienne à Villeneuve qui est liée en fait à de la rénovation urbaine du centre-ville, parce qu'en centre-ville il y avait une partie dans la rue très cloître qui s'appelle la Petite Algérie. Mmh. Et typiquement les immigrés algériens dans les années 60-70 arrivaient là, et donc il y avait un gros réseau de solidarité. Et si quand sous Carignan ces quartiers ont été refaits, donc d'abord il y avait le projet du Bedou, mais sous Carignan en fait il a décidé de faire la rénovation différemment, qui rendait trop cher pour les immigrés, et donc une grande partie ensuite a déménagé à Villeneuve aussi parce que les appartements étaient plus grands et pour les enfants c'était bien. Donc ça fait qu'il y a une grande population algérienne, même si la population de Villeneuve est extrêmement diverse, mais on trouvait qu'on ne pouvait pas se passer de cette histoire-là, parce qu'elle est quand même extrêmement présente en France. Même déjà, si on s'imagine qu'au moment de l'indépendance de l'Algérie, il y a quand même 1 million de Français qui habitaient en Algérie, donc de pieds noirs, entre autres, mais aussi les Français qui travaillaient là-bas, ce qu'on appelait les Français de la métropole, reviennent en France. Donc ça concerne 1 million de personnes, plus tous les immigrés algériens, origine. C'est toujours compliqué de le dire exactement, mais qu'on appelait les Français musulmans à l'époque. Donc ouais, ça concerne beaucoup de monde.
Ça concerne vraiment beaucoup de monde, oui, c'est sûr. Alors, un travail de longue haleine, hein, puisque tu as commencé en 2015, donc tu disais.
Ouais.
2021, la soutenance, c'est aujourd'hui.
Oui.
À 14h, c'est ça. Dans le cadre de ce mois décolonial, nous, on a reçu quelqu'un la semaine dernière, Nadia Kirat,
oui,
de l'asso PEPS, du mouvement PEPS, et, qui est venue nous en parler un peu. Est-ce que ça fait. Tu vas participer à ce mois-ci?
Oui.
Oui. Autour d'une table ronde, conférence?
Oui, c'est la dernière table ronde qui parle de la décolonisation des savoirs.
La décolonisation des savoirs. Alors justement, on va essayer d'un peu de décortiquer ce terme, la décolonisation des savoirs.
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a beaucoup de gens qui, encore hier soir, moi je discutais autour d'une table avec des amis, et je leur parle du mois décolonial, et je leur parle de décoloniser les savoirs, décoloniser l'art, décoloniser l'écologie, et ils ne voyaient pas très bien, en fait, de quoi il s'agissait. Est-ce qu'on peut clarifier ça, Klaske?
Je vais essayer.
Ouais, décoloniser les savoirs. Qu'est-ce que ça sous-entend?
Je vais commencer avec une histoire qui nous ramène un peu loin, mais qui pour moi, en tout cas, était une image très parlante. C'est Edward Said, qui est un grand penseur palestinien qui a vécu aux États-Unis et qui a écrit un livre, L'Orientalisme, et qui décrit qu'au moment que Napoléon... Il faisait sa conquête de l'Égypte, ou en tout cas l'exploration. Donc c'était une conquête militaire. Donc il vient avec tout un bataillon d'hommes militaires. Mais il amène aussi des savants. Et donc ils doivent cartographier, décrire les ethnies. Et donc ce mélange de... En fait, c'est produire du savoir, mais en même temps, elle se crée dans les relations d'asymétrie, mais totale. Et donc, lui, il peut produire tout un savoir sur l'Égypte, comment c'est, il définit. Et
avec ses propres savants, du coup, c'est
avec
ça?
Avec ses propres savants,
voilà,
qui l'amènent de la France. Et ça va être très influent sur qu'est-ce qu'on sait de l'Égypte pour la suite. Mais en fait... Quelles possibilités ont les Égyptiens en fait de produire du savoir sur la France? Ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, militaires de faire. Et donc, c'est une asymétrie sur qui produire, en fait, qui peut produire du savoir de l'autre. Et est-ce que les populations locales peuvent contester l'image qui est donnée d'eux en France? Et donc, quand je parlais tout à l'heure des rapports de pouvoir asymétrique dans qui peut parler et qui ne peut pas, c'est pareil. Donc, il y a des formes de savoir qui n'ont pas la place dans ce qu'on appelle la science aujourd'hui. Et moi, j'étais confrontée avec ça aussi, parce que mon approche de dire bah, on va produire du savoir collectivement, donc c'est pas que moi qui a du savoir et vous allez me donner des informations et moi je vais les transformer en savoir, mais en fait vous avez aussi du savoir à partir de vos expériences, et que l'expérience est une forme de, une source de savoir extrêmement importante, parce que qui passe par des expériences qui sont intimes et que moi je pourrais jamais complètement comprendre
si tu ne le vis pas,
tu peux essayer, oui. tu peux aller très loin dans
l'étude, la compréhension et tout. Ouais.
C'est ça, mais ce ne sera pas pareil. Et donc, dans ma tête, j'ai décidé de laisser donc une grande place pour aussi les paroles des personnes, comme ils ont dit les choses avec leurs propres mots. Et ça m'a été reproché par le premier rapporteur de ma thèse, qui a dit que, en fait, si je disais que c'était important leur parole et que j'allais pas trop les interpréter derrière, parce que c'est typiquement ce que fait un chercheur, il dit « Oh, mon participant, il a dit ça. En fait, ce que ça veut dire, c'est ouais. nanana nanana. » Et j'ai pas voulu faire ça. D'accord. J'ai dit « Ok, vous avez parlé, vous parlez pour vous-même. » Effectivement, je construis là-dessus et je dis en fait que je tisse ces histoires, et le fil rouge et le cadre analytique, c'est le mien. Mais il m'a été reproché donc de ne pas de laisser trop de place à ces personnes, et finalement qu'est-ce qui était ma contribution de plus, et que c'est un chouette projet de quartier, mais on pouvait pas appeler ça la science. Et donc en fait la thèse a été refusée.
D'accord.
J'aurais dû le défendre, le soutenir le 5 mars, mais donc ça n'a pas été possible. Et bien sûr, à ce moment, défendre une thèse qui a le mot exploration décoloniale, c'est pas forcément le bon moment. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de soutien à l'université, à l'école doctorale, qui a dit que en fait, le refus de la thèse était injustifié. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir un autre rapporteur, donc qui évalue le travail et qui finalement dit. Cette thèse, elle est soutenable, où on va autoriser à la personne à la soutenir. Et c'est ça qui m'a permis, donc finalement, de la soutenir aujourd'hui avec un nouveau jeu.
Alors, Klaske Dyskema, tu es notre invité ce matin. Et on va terminer avec, si tu veux bien, tu as ce projet de faire cette thèse, tu vas la soutenir. Est-ce que tu aurais quelques mots pour nos auditeurs qui... Et ben voilà, que je sais pas si tu as un message à faire passer ou une idée ou un mot à rajouter justement pour les auditeurs.
Ok, je finis peut-être avec la phrase avec laquelle je finis demain, non cet après-midi ma présentation. Je dis, nous avons appris à l'Université Populaire que le lien colonial n'est pas uniquement facteur de division, mais aussi de liaison. Comme disait une participante algérienne, nous sommes ici parce que vous étiez là-bas. Il est temps de regarder cette affirmation en face. Et si on ne peut pas refaire le passé, le futur reste à faire. Et donc, une question sur laquelle je conclue ma thèse est la question du rôle que veut et peut jouer l'université dans ce débat.
Yes, merci beaucoup, Klaske. Merci, et on croise les doigts pour 14 heures pour toi.
Merci. Du coup.